Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Les dernières années endeuillées, des problèmes de santé, les grandes années de gloire sont derrière notre artiste qui abandonne peu à peu la peinture pour la sculpture. Délaissons notre palette et notre chevalet et rendons-nous en terre parisienne. Bienvenue chez Hilaire Germain Edgar Degas. Depuis 20 ans, malgré les lunettes spéciales et les médications prescrites, les problèmes de vue d'Edgar s'intensifient. Il se consacre alors à la sculpture et renonce progressivement à la peinture et au pastel.
Une personnalité sardonique.
Son caractère s'en trouve assombri et ses paroles acerbes. Comme le souligne Georges Moore, Degas est doté d'une vivacité et profondeur d'esprit alliée à un caractère dédaigneux et sarcastique. Le tout Paris attend ses réparties. Les journalistes sont les premiers épinglés.
La littérature n'a fait que du mal à l'art.
Ou bien...
Le bleu sort du tube et non de l'encrier.
Ou encore...
La peinture, est-ce que c'est fait pour être vu? Comprenez-vous, on travaille pour deux ou trois amis vivants, pour d'autres qu'on n'a pas connus ou qui sont morts. Est-ce que ça regarde les journalistes que je fasse des bottes ou des chaussons de lisière? C'est de la vie privée, ça.
Les femmes ont droit, elles aussi, à quelques piques.
Elles pensent par petits paquets, font une enveloppe à chaque sujet, mettent l'étiquette et c'est fini.
Quant à ses amis peintres, ils ne les oublient pas non plus. Concernant les nymphéas de Monet, il déclare
« Pas mal vos petites tasses de camomille ».
Degas avouera à Vollard le marchand d'art.
Tous ces reflets d'eau me faisaient mal aux yeux. Il me semblait que c'était plein de courants d'air. Un peu plus, je relevais le col de mon veston.
À propos de Berthe Morisot, il lance
« Elle fait des tableaux comme elle ferait des chapeaux ».
Même Fantin Latour, à qui il reconnaît beaucoup de talent, reçoit des remarques désobligeantes sur ses bouquets de fleurs.
Un invité déplaisant.
Degas est devenu impitoyable, impossible et insupportable quand il est invité. Il lui arrive de remporter les tableaux de ses amis, afin de les retoucher. Son ami, Roire, a anticipé toute volonté de reprise des toiles en les attachant au mur avec une chaîne. Il peut repartir avant le dîner, s'il découvre une toile mal encadrée. Surtout, si le cadre est d'or, alors qu'il affectionne l'encadrement, crête de coq. Par ailleurs, il impose ses règles. Dîner à 7h30, pas de fleurs sur la table, éloigner enfants, chats et chiens, qu'il chasse à coups de parapluie. Pas de parfum non plus, et très peu de lumière. La maîtresse de maison doit respecter ses désirs si elle ne veut pas le voir partir aussitôt. Un soir de grand dîner en son honneur, alors que le valet appelle du perron les gens du comte de X, les gens du marquis Y, une dame s'étonne que les gens de M. Degas ne soient pas demandés. Edgar lui répond alors
« Les gens de M. Degas, madame, s'appellent Zoé. Elle dort depuis 8 heures. »
Avec certains de ses modèles, il lui arrive de plaisanter parfois, et aussi d'être intransigeant.
« Tu es un cas très rare. Tu as les fesses en forme de poire, comme la Joconde. »
À une autre, qui lui reproche d'avoir altéré son nez, Degas la met à la porte aussitôt, ses vêtements derrière elle.
Une dernière passion.
Dans un article, Thibaut Sisson, journaliste, rapporte sa rencontre avec Degas en 97, lors de son séjour au Mont d'Or. L'artiste lui narre comment il en est venu à la sculpture, pour comprendre et retranscrire le mouvement du cheval et des danseuses.
Plus je vieillis, plus je me suis rendu compte que pour arriver dans l'interprétation de l'animal à une exactitude si parfaite qu'elle donne la sensation de vie, il faut recourir aux trois dimensions, parce que l'à peu près n'y est pas de mise.
Et un peu plus loin.
La vérité, vous ne l'obtiendrez qu'à l'aide du modelage, parce qu'il exerce sur l'artiste une contrainte qui le force à ne rien négliger de ce qui compte. C'est pourquoi, maintenant que mes mauvais yeux m'interdisent tout tableau, maintenant que le crayon ou le pastel seul m'est permis, j'éprouve plus que jamais le besoin de traduire mes impressions de la forme en sculpture.
Degas ajoute que s'il a modelé en cire bêtes et gens, c'est pour donner à ses peintures et dessins plus d'expression, plus d'ardeur et plus de vie. Ces sculptures ne seront découvertes qu'après son décès, en très mauvaise conservation, puisque faites en cire. Du vivant de l'artiste, seulement une ou deux statues furent moulées en plâtre. Devant une danseuse qu'il façonnait pour la 20e fois en présence de Vollard étonné, il déclare
« Vous pensez, surtout Vollard, à ce que ça valait. Mais m'auriez-vous donné un chapeau plein de diamants, que je n'aurais pas eu un bonheur égal à celui que j'ai pris à démolir ça pour le plaisir de recommencer. »
Faire et défaire, telle est la satisfaction de Degas, que ce soit en sculpture ou peinture à retoucher. Tout au long de sa carrière, il est en perpétuelle recherche, dessiner, redessiner sur ses calques, jusqu'à la perfection, et recommencer. Lors de l'inventaire après décès de l'atelier du peintre, 150 sculptures en cire furent recensées, en plus ou moins bon état, par Joseph Durand-Ruel. Une centaine furent gardées et remises au sculpteur Bartholomé pour restauration. 73 sont ensuite coulées en bronze par le fondeur Hébrard et exposées en mai-juin 1921. Ces premiers bronzes serviront de modèle pour un second tirage en bronze en plusieurs exemplaires de chaque statuette, protégeant ainsi les originaux en cire. Ces derniers sont achetés à Hébrard par Paul Melon en 1955, qui va alors offrir quelques spécimens au Louvre. Par la suite, la National Gallery of Art de Washington recueillera la majorité de la collection. Mais attention, il existe une vaste confusion autour des bronzes posthumes de Degas et de certains plâtres découverts dans la fonderie Valsfani en 1998. L'ancien fondeur d'Hébrard, dont la fonderie a fait faillite, va alors travailler chez Valsfani dans les années 30. Ces plâtres auraient pu servir à d'autres tirages en bronze, qui n'auraient pas la même valeur que ceux de 1920. L'histoire est très complexe autour de ces sculptures, entre les originaux, les copies et les reproductions. Allons justement découvrir quelques-uns de ces modèles.
Du côté du musée.
Degas sculpte à partir de différents matériaux, carton, tissu, fil de fer, bouchon, mélangé à de la cire et recouvert de cire d'abeille. Nous pouvons admirer au musée d'Orsay les bronzes de la petite danseuse de 14 ans habillée et l'étude de nu pour la danseuse habillée. Danseuse, pied droit en avant, cheval au galop tournant la tête à droite et jockey, cheval se cabrant, cheval à l'abreuvoir, entre autres. À l'étranger sont exposées Grande Arabesque à Los Angeles, Femme assise essuyant le côté gauche, musée Guggenheim, New York, cheval se cabrant à Sofia, pour n'en citer que quelques-unes. Refermons maintenant la porte du musée pour aller dans l'antre du peintre, c'est-à-dire son atelier, comprendre pourquoi Degas abhorrait le plein air et découvrir sa perfection de l'encadrement.
L'instant pratique, pratique.
Au sein des impressionnistes, Degas est le seul à ne pas dessiner sur le motif, contrairement à ses amis. À ce propos, il se plaît à raconter.
C'est très bien de copier ce que l'on voit, mais c'est beaucoup mieux de dessiner ce que l'on ne voit plus que dans sa mémoire. C'est une transformation pendant laquelle l'imagination collabore avec la mémoire. Vous ne reproduisez que ce qui vous a frappé, c'est-à-dire le nécessaire. Là, vos souvenirs et votre fantaisie sont libérés de la tyrannie qu'exerce la nature.
Comme cité précédemment, Degas a ses idées bien précises concernant l'encadrement de ses œuvres. Vollard raconte que le peintre cède ses œuvres encadrées. Si elles ne le sont pas, il recommande d'aller chez son encadreur Lézin et qu'il choisira lui-même la bordure. Généralement, il opte pour le cadre crête de coq, son préféré, dont il a créé le modèle et choisit les couleurs, plutôt couleur chaise de jardin. Au cours de l'année 1898, le peintre achète des toiles de Cézanne, nature morte, verre et serviette, 400 francs, un tableau de poire verte, 200 francs. Il reçoit régulièrement la visite de Julie Manet, fille de Berthe Morisot, et lui fait rencontrer Ernest Roire. Au cours d'un dîner chez les Roire, dont l'autre fils Eugène doit épouser Yvonne Lerolle, 5 jours plus tard, le 27 décembre, Edgar murmure à Julie.
« Je vous ai débrouillé, Ernest. Maintenant, c'est à vous de continuer. »
Leur mariage aura lieu en mai 1900. À la centennale d'art français de 1901, qui s'ouvre au Grand Palais, Degas s'enquit auprès de son ami Lafont, conservateur du musée de Pau, si son tableau, le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, sera exhibé. En effet, il souhaite éviter cette exposition, n'ayant pas été contacté. À cette période, il devient distant avec Bartholomé, car le sculpteur s'est remarié avec un modèle très jeune.
Les années passent.
De santé peu robuste, Degas attrape une grippe intestinale en 1904. Il reçoit la visite de Daniel Halévy, qui le trouve amaigri et vêtu comme un vagabond. En août, il réclame de l'argent, 3500 francs à Durand-Ruel, afin de régler ses factures. Il peint ses derniers tableaux, blanchisseuses et chevaux. Puis il part en voyage dans l'est de la France, Pontarlier, l'Alsace, pour raison de santé. Il passe quelques jours dans la maison de campagne d'Hiroir, dont il fait les portraits au pastel des enfants. Durand Ruel expose à Londres en 1905 35 toiles de Degas. En octobre, Cézanne, que Degas admire et dont il possède 7 tableaux et une aquarelle, s'éteint le 22 du mois. Puis, le peintre va rendre visite à sa sœur Thérèse à Naples. Mais quand il revient en France, il se fait voler 1000 francs dans ses poches entre Marseille et Lyon.
Visite aux amis.
Aussitôt rentré, il va dîner chez les Rouards, qui représentent sa famille en France. Sur les conseils de son médecin, il se promène longuement à pied ou en omnibus dans les rues de Paris. En février 1907, le sculpteur et dentiste Paul Paulin exécute son second buste d'Edgar chez ce dernier. Le peintre continue ses pastels de Baigneuse, entre autres, et rend visite au Rouard, dont Henri est convalescent.
Chagrin à l'horizon.
En mai 1908, il apprend le décès de son ami Ludovic Halévy et renoue avec la famille, après 10 ans de séparation. De son côté, sa nièce, Célestine Fèvre, décède près de Nice. Puis, en 1909, c'est sa cousine de Naples, Lucie Degas, qui s'éteint. Les amis, la famille, disparaissent peu à peu autour du peintre, qui s'enferme dans la solitude. Il lui reste encore la famille d'Henri Rouard, chez laquelle il a rencontré Paul Valéry en 1893-94, et le clan Halévy. Le 4 août 1910, il écrit à Madame Halévy.
« Ma chère Louise, merci de votre bonne lettre, vous me trouverez un de ces jours sur votre route. Amitié. »
Le Fogg Art Museum de l'Université Harvard présente en avril 1911 la seconde exposition particulière de Degas, avec 12 œuvres, dont « Chevaux de course à Longchamp ». Le peintre se rend en mai à l'exposition d'Ingres, organisée chez Georges Petit. Tout émerveillé, il promène les mains sur les tableaux, les touchant. Bien que Degas ne soit pas un adepte des tableaux de Monet, qu'il qualifie d'un art de vente, il se rend, presque aveugle, à Giverny, pour l'enterrement d'Alice Monet, sa femme.
Déchirement.
Cette année 1912 est bien synonyme de souffrance pour Edgar, car il perd son ami d'enfance, Henri Rouard. Et comme une affliction n'arrive jamais seule, Degas est obligé de quitter son appartement de la rue Victor Massé, qu'il occupe depuis 20 ans. C'est un véritable chagrin pour le peintre, dont la maison est vouée à la démolition. Ses amis, dont Suzanne Valadon, l'aident à trouver une autre demeure, au 6 boulevard de Clichy. Le logement atelier est inconfortable, et Degas a horreur du confort moderne.
Comprenez-vous ces pièces où il fait une chaleur égale partout ? Moi, quand j'ai envie de me chauffer, je vais près de la cheminée. Quand je n'ai plus froid, je m'en éloigne.
Sa sœur, Thérèse, décède à Naples en juillet. Il envoie à cet effet de l'argent pour payer l'enterrement. Vu les problèmes de santé d'Edgar, Marie Cassatt se permet de rendre visite à ses nièces Fèvre, près de Nice. Il est devenu sourd, presque aveugle, avec des problèmes de vessie. L'artiste ne travaille guère. Il déambule dans les rues de Paris et revient sans cesse vers son ancienne maison démolie. Il regarde par la palissade le terrain vide. Le 10 décembre a lieu la vente de la collection d'Henri Rouard. Son tableau, Les danseuses à la barre, part pour 430 000 francs. Il est acheté par Durand Ruel pour Madame Eve Meyer. Degas est présent, immobile, indifférent, au prix considérable qu'atteignent ses œuvres. Il n'a jamais attaché beaucoup d'importance à l'argent et disait
« De mon temps, on n'arrivait pas. »
En repartant avec Daniel Halévy, il lui déclare
« Tu vois, les jambes sont bonnes, je vais bien. Je ne travaille plus depuis mon emménagement. Ça m'est égal, je laisse tout. C'est étonnant la vieillesse, comme on devient indifférent. »
Degas n'est plus qu'une épave, note Marie Cassatt en 1913. Et Bartholomé parle d'Edgar en ces termes à Paul Lafont.
Le bon Degas change beaucoup, non pas qu'il soit malade. Jamais il ne s'est mieux porté, il vit dehors du matin au soir. Mais moralement, il est l'ombre de lui-même, et sa mémoire si belle disparaît avec sa verve et son entrain. Il dit encore « Je suis un tigre », mais il ne mord plus.
Voyage en terre de couleur se clôture sur une triste réalité, la vieillesse d'un peintre au génie accompli. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette même antenne pour l'ultime épisode.